On a eu l'idée comme ça en plein hiver, on va manifester le soir à la tombée de la nuit et donc on va allumer les flambeaux. Et d'un seul coup ils se sont dit oui, nous sommes les révolutionnaires, nous prenons les flambeaux et on va gagner contre Macron.
Studio Solidaire à Manifiesta avec Catherine Perret et Kim Debetter.
Bonsoir, je suis Kim Dewitt, spécialiste pension pour le PTB et j'ai l'honneur de pouvoir discuter avec Catherine Perret, qui est donc membre de la direction nationale de la CGT, Confédération générale du travail en France, sur les pensions. Bonsoir Catherine.
Bonsoir Kim.
Je calcule depuis 5 ans en fait l'écart pension entre la Belgique et la France et toute une série d'autres pays. Et on voit dans ces calculs que la France, leur pension des Français, pour le même nombre d'années de travail, avec le même salaire, c'est 40% plus élevé par rapport à la Belgique. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se fait, cette différence ?
Oui, tu as tout à fait raison, hein. C'est lié à l'histoire. C'est pas venu comme ça, c'est l'histoire de mouvements sociaux importants qui datent d'après la Seconde Guerre mondiale en France, où le parti de gauche est très fort. Les syndicalistes, et en particulier la CGT, est très forte. Et donc, on décide de créer un système de retraite qui va protéger contre la pauvreté. Et on y est pas mal parvenu, d'ailleurs, puisque la pauvreté en France, pour les personnes âgées, elle est 2 fois inférieure à la moyenne européenne. En France, à l'origine, il y a très, très peu de retraités bénéficiant d'une pension, parce que la retraite qui, avant la guerre, n'est pas obligatoire. Donc les gens ne sont pas obligés de s'assurer pour leurs vieux jours. Il y en a très peu qui le sont en 1945-46. Et donc, ils ne peuvent pas vivre, quoi. Ils ne peuvent pas s'arrêter de travailler. En général, ils meurent au travail. D'ailleurs, la CGT a fait une grande campagne pour dire on ne veut pas la retraite pour les morts. Parce qu'effectivement, en général, quand les gens arrêtaient de travailler, ben, ils mouraient immédiatement. Donc on invente un système qui est fondé sur des cotisations sociales qui sont prélevées sur le salaire. Plus on gagne, plus on cotise. C'est le phénomène de « on cotise selon ses moyens ». Par contre, eh bien, on reçoit des prestations de pension selon ses besoins. Et donc il y a un grand système de solidarité qui fonde la retraite en France. C'est-à-dire que, en fait, on garantit aux Français, pour au départ 35 ans, puis 40 ans de vie active, des prestations à un niveau minimum. Et on s'arrange en France, s'il y a de plus en plus de personnes âgées, pour augmenter les recettes et pouvoir garantir le financement des retraites. Donc c'est un fonctionnement qui est très solidaire et donc qui garantit d'une génération à l'autre que les gens vont vivre avec un minimum de retraite. En règle générale, on peut partir à la retraite avec une pension moyenne qui oscille entre 70 et 80% du salaire qu'on avait quand on était à l'activité.
C'est ça. Oui, en Belgique, c'est autour de 50, entre 50 et 60%. Donc c'est une grosse différence. Et est-ce que j'ai bien compris que les cotisations sociales sont donc augmentées en fonction des besoins des pensionnés ? Oui, c'est ça. Automatiquement.
Alors, à l'origine, c'est l'objectif. L'objectif de dire il faudra augmenter les cotisations parce que les besoins seront plus importants. Donc ça fonctionne pendant plusieurs décennies. Depuis les différentes réformes qui ont eu lieu depuis 25 ans, c'est de moins en moins vrai parce que justement, nos gouvernements successifs veulent plafonner les cotisations, empêcher de nouvelles recettes et donc baisser les dépenses. C'est l'objet, on le verra, hein, c'est l'objet de la dernière réforme qu'on a connue en France. Ouais. Donc de plus en plus, on a du mal effectivement à obtenir, d'augmenter les cotisations qui sont payées pour partie par les employeurs et pour partie par les salariés. Et nous, à la CGT, on dit, parce qu'on souhaite améliorer le système dans lequel on est, on voudrait par exemple qu'il n'y ait pas une pension en France en dessous de 1200 euros, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On dit qu'on accepterait même que les cotisations augmentent à la fois pour les salariés comme pour les employeurs. Donc c'est un vrai débat en France d'augmenter
donc,
les
pas
recettes.
De, pas de pension en dessous de 1200 euros. Donc en fait, en Belgique, c'est la pension moyenne pour les salariés. Mon papa, il a travaillé 42 ans, il a une pension de 1150 euros. Est-ce que tu peux m'expliquer ou nous expliquer un peu plus aussi comment ça se fait que ce système a été installé? C'est pas juste donné comme ça, je suppose. Il y a quelque chose qui a fait que ce système, en Europe, globalement, assez avantageux, hein, quand on compare, ça vient d'où?
Écoute, c'est le rapport de force et c'est la vie politique qui explique cette création. C'est la création de la sécurité sociale en France, qui ne s'occupe pas que des retraites. La sécurité sociale en France, elle s'occupe de la santé, de la vieillesse, donc des pensions, des accidents de travail et également de la famille et donc des aides pour les gens qui ont des enfants. Et ça, c'est au lendemain de la guerre. Il faut reconstruire le pays. Le Parti communiste qui est le premier parti politique en France au lendemain de la guerre et qui est au gouvernement, eh bien, décide de créer la sécurité sociale.
Et là, vous m'avez dit, il y a un certain monsieur, Ambroise Croizat, qui a joué un rôle particulier, qui vient aussi de la CGT, si j'ai bien compris.
Exactement. Quand le premier gouvernement se forme, on appelle le secrétaire général des métallos, de la métallurgie de la CGT, qui s'appelle Ambroise Croizat. C'est un syndicaliste. Et on l'appelle au gouvernement en tant que ministre du Travail. Et donc, il a pour mission de mettre en place un système de sécurité sociale pour assurer les gens de la naissance à la mort. Et donc on crée justement un système de pension qui permet de sortir progressivement les gens de la pauvreté. Donc c'est véritablement un grand monsieur, Ambroise Croizat, en plus évidemment c'est un syndicaliste de la CGT, et on l'a un peu oublié en France, les gouvernements successifs ont un peu tendance à oublier qu'il a créé la sécurité sociale, et que quelque part ce sont les syndicalistes qui ont créé ce beau système de solidarité en France. J'ajouterai aussi que quand on crée la sécurité sociale et donc le premier système de pension en France, eh bien, il n'y a rien. Et ce sont les militants de la CGT qui, après leurs heures de travail, le soir, reconstituent les fiches de chaque assuré social et créent les premières caisses de sécurité sociale qui sont créées en 9 mois, alors même qu'en Angleterre, par exemple, quand le système est créé, ils mettent 5 ans pour le faire.
Je propose de faire un bond dans le temps et venir un peu vers la situation actuelle. Et en mars 2020, le président Macron, il annonce tout d'un coup que toute sa réforme, sa grande réforme des retraites, s'est suspendue. Pourquoi ?
Quand il arrive au pouvoir, Macron, il dit « je vais faire une réforme qui va tout bouleverser et qui va rendre la retraite plus juste pour ceux qui sont... plus modeste en France, et en particulier les femmes et les jeunes. Et donc, nous, très vite, on comprend que cette réforme qu'il veut mettre en place, c'est une réforme, en fait, dictée par les consignes de l'Union européenne de baisser, justement, les dépenses et qu'il change le système pour brouiller les pistes. Et, en fait, que l'objectif, c'est de baisser les pensions, mais de manière très forte, et de les baisser plus rapidement que lors des précédentes réformes. Parce qu'en fait, Macron, il aurait pu se contenter de dire « je recule encore l'âge légal de la retraite à 65 ans ». Mais les financiers autour de lui ont calculé qu'en faisant ça, il n'économisait pas suffisamment sur le dossier retraite et qu'il fallait au contraire inventer un nouveau système qui soit encore plus efficace pour baisser plus vite les pensions. Puis le deuxième objectif de Macron, c'est qu'il n'y ait plus de repère d'âge légal en France. C'est-à-dire que le repère pour les Français de 60 ans, puis de 62 ans en 2010, c'est des repères extrêmement importants. Les Français y tiennent énormément à ce droit de pouvoir partir en retraite à un âge qui est commun à tous. Et donc, en fait, on encourage les Français finalement à travailler de plus en plus longtemps sans garantie d'avoir une pension correcte. C'est au bout de 44 ans.
Au lieu d'ajuster les cotisations, on va changer l'âge de la pension.
Exactement.
Et le montant de la pension.
Okay, voilà, okay, exactement.
Et ça, c'est donc le plan Macron.
Oui.
Et donc, vous avez réagi.
Et alors on a réagi, effectivement, on a réagi en disant il faut qu'on convainque d'abord l'opinion publique que c'est une fumisterie. Et donc on va faire démontrer en prenant des exemples précis, en prenant l'exemple d'une aide-soignante, d'un instituteur, d'un ouvrier, d'un cadre. En faisant des simulations de pension, on va montrer que ces gens-là vont perdre entre 20-30% de la pension qu'ils pourraient avoir dans le système actuel en France. Et donc on lance une grande campagne d'information en disant, et on s'inspire de la Belgique, hein, puisque vous avez vous aussi combattu une réforme à points juste avant nous.
Notre grâce, pension a de droit, pas une tombola.
Voilà, exactement. On s'inspire, on fait venir nos camarades du FGTB en France. Ils viennent nous expliquer comment vous avez lutté. Et on reprend leur campagne en disant, effectivement, cette réforme à points, c'est une loterie. Et donc, on lance une grande campagne en disant « Ne jouez pas votre pension à la tombola ». Et ça fonctionne, ça permet de mobiliser l'opinion. Et très, très vite, l'opinion comprend que cette réforme, c'est une réforme régressive. C'est une réforme qui va leur détruire des droits. Donc, c'est un premier pas pour commencer à lutter. Le deuxième élément, c'est que c'est la première fois en France qu'on attaque toutes les professions en même temps. En général, les précédents gouvernements qui ont fait des mauvaises réformes, ils ont d'abord attaqué les gens du public, puis ils ont attaqué le privé, puis ils ont attaqué les cheminots. Donc ils n'ont jamais attaqué tout le monde
de
en
diviser,
même temps. Ils essayaient de diviser et de faire en sorte, par exemple, que les salariés du privé ne se mettent pas en grève quand c'était les salariés du public qui étaient attaqués, en disant « mais vous avez vu, ils ont plus de droits que vous, c'est normal qu'on rabote un peu leur pension ». Et jusqu'à présent, ça avait fonctionné. Mais là, comme il veut faire une réforme universelle, il est obligé de s'attaquer à toutes les professions en même temps. Et donc, nous, on fait le pari qu'on va réussir à mettre en mouvement toutes les professions en même temps, en leur proposant justement une autre réforme. Parce qu'on ne fait pas seulement une lutte contre la réforme Macron, on fait aussi une lutte pour de nouveaux droits. Et on propose d'aligner les meilleurs droits qui existent en France sur l'ensemble des professions. Et ça, ça fonctionne aussi. Et ça permet de démarrer une grosse mobilisation qu'on prépare 2 mois à l'avance. Dans l'unité syndicale, pas tous les syndicats, évidemment, sont appelés à mobiliser, mais une grande partie des syndicats, les organisations de jeunesse aussi, c'est important, parce que les jeunes, ce seront les premières victimes de cette réforme Macron. Et ça fonctionne. Et il y a une énorme manifestation le 5 décembre qui concerne toute la France, toutes les professions. Et c'est parti pour 4 mois de mobilisation.
Attends. Parce que c'est très intéressant. Hein, donc, on va un tout petit peu creuser cette question. Ouais. Donc, d'abord, si j'ai bien suivi, Macron, il vient avec, oui, à 40 systèmes différents. Ouais. Je vais attaquer les privilèges de tous ces gens. Et vous avez réussi à donc unifier les gens. Non, il nous attaque tout le monde. Ouais. C'est pas nous qui sommes privilégiés, c'est notre pension. Donc, vous avez réussi à faire ça. Ouais. Très intéressant. Mais après, donc, vous avez mobilisé tout le monde pour faire une grosse manif le 5 décembre, si j'ai bien compris.
Oui,
1,5 million de personnes.
Oui, à peu près, oui.
1,5 million de personnes dans les rues, c'est énorme.
Ouais.
Et après, il fallait continuer parce que Macron n'était pas encore battu complètement à ce moment-là, si j'ai bien compris. Donc après, comment vous avez fait pour continuer votre...
D'abord, ça nous a donné du courage, hein, cette première mobilisation qui est très très forte, avec des taux de grévistes aussi très importants. Il y a beaucoup de gens dans les rues, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont arrêté de travailler dans des secteurs entiers. Et donc, on dit, il faut continuer. On sait que ça va être long. Donc, on essaye de trouver des modes de lutte qui vont permettre de mobiliser longtemps. Alors, il y a plusieurs mobilisations différentes. D'abord, il y a des professions qui sont particulièrement attaquées, qui disent, nous, on ne reprend pas le boulot, on reste en grève et on fera en sorte de gagner contre cette réforme. Ce sont beaucoup dans les transports, les conducteurs de train, donc, les conducteurs de métro.
Mais les métros, ils ont fait des semaines de grève, je me rappelle.
C'est les plus longues grèves qui ont existé dans cette profession en France. Ils sont restés à peu près jusqu'à 100 jours en grève. Hein.
Il y a une solidarité
solidarité, bien sûr. On a mis en place tout un système de caisses de solidarité pour aider. Et puis, on se relayait aussi pour aller les voir, pour leur remonter le moral. Mais ils étaient très, très, très motivés. Et donc, ils ont fait grève, on a occupé, y compris des lieux de travail pendant Noël, hein, pendant les fêtes de fin d'année, ce qui est presque complètement extraordinaire. Hein. Il y avait des rassemblements à 5h du matin, le matin de Noël, pour aller soutenir les grévistes. Donc ça, c'était vraiment extrêmement fort et très beau. Ils étaient très, très convaincus. Ils ont réussi, eux, à pas empêcher complètement la réforme d'emblée, mais à faire en sorte que Macron soit obligé de reculer sur la mise en œuvre de la réforme. Mmh. C'est-à-dire, c'est aussi pour ça qu'il a été obligé de la suspendre en mars 2020, parce qu'il avait fait tellement de concessions face aux mobilisations qu'au bout du compte, sa réforme, elle ressemblait plus à rien, que pour un certain nombre de professions, elle ne se serait appliquée que dans 40 ou 50 ans. On appelait ça en France la réforme des grands-pères, parce qu'effectivement, on avait tellement fait reculer les décisions gouvernementales que, en fait, le changement ne concernait que les petits-enfants, finalement. Donc ça a beaucoup marqué.
C'est bien. Donc, il y a eu les conducteurs de métro, de train. Toutes ces professions. Mais si j'ai bien compris, vous avez aussi réussi à élargir le mouvement.
On a réussi à élargir
population.
Le mouvement. Ouais. En changeant les modes de mobilisation. Parce qu'en France, comme en Belgique, hein, on est confronté aux mêmes problématiques. Il y a de plus en plus de travail précaire. Il y a de plus en plus de difficultés à engager les gens dans une grève. Il y a des problèmes de pouvoir d'achat aussi extrêmement importants.
Ouais, les gilets jaunes.
Donc on savait, bien sûr, que les gens ne pourraient pas faire grève partout pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc on a essayé d'élargir, parce qu'il y avait un fort soutien populaire de gens, en fait, qui regardaient les grévistes en disant « Oui, c'est ça qu'il faut faire, mais nous, on n'est pas en capacité de se mettre en grève. » Donc on a essayé de proposer d'autres modes de lutte. Et notamment, on a essayé de proposer de lutter dans la rue, mais à d'autres heures que les heures de travail. Et on a eu l'idée, comme ça, en plein hiver, de se dire « On va manifester le soir à la tombée de la nuit. Donc pour s'éclairer, il nous faut des flambeaux. Et donc on va allumer les flambeaux. » Et en France, c'est quelque chose qui a fait appel à l'imaginaire de la Révolution française. Hein, vraiment, on ne sait pas l'expliquer. Et donc, ça a pris. Tout le monde voulait son flambeau. Et d'un seul coup, ils se sont dit, oui, nous sommes les révolutionnaires, nous prenons les flambeaux et on va gagner contre Macron. Et donc, ça a fait énormément de petits. Ça a été des mobilisations. Alors après, ils ont inventé plein de choses. Hein. Il y a eu énormément d'inventivité.
Explique un peu, parce que c'est intéressant. Il y a beaucoup de créativité aussi, si j'ai bien compris, les différentes professions.
Exactement. Les luttes, elles ont été inventives, ce qui est aussi très intéressant, parce que, également, les jeunes sont venus avec de nouveaux modes d'action. Ils nous ont un peu bousculés, d'ailleurs, parce qu'on n'avait pas forcément l'habitude. On avait un peu l'habitude de dire grève, manifestation, etc. Eux, ils ont fait des choses un peu différentes. Et puis, les professions aussi, on dit nous, on veut pas travailler plus longtemps parce que on a de mauvaises conditions de travail, on en a marre, on veut que le travail change, et donc on va jeter nos outils de travail à la figure de ceux qui veulent nous faire travailler jusqu'à 65 ou 70 ans. Et donc ça a commencé par différentes professions qu'on dit on jette nos cartables, nos crayons et nos cahiers pour les enseignants. On jette nos truelles pour les maçons. On jette nos robes d'avocat parce qu'on veut nous baisser notre retraite. Et donc, on jette la robe d'avocat sur les marches du tribunal et on arrête de travailler. Toutes les professions. Et donc, ça a beaucoup plu, ça. Toutes les professions se sont mis à jeter leur outil de travail en disant on veut travailler autrement, on veut vivre de notre travail et on veut partir à la retraite plus tôt.
Quand il est venu avec son plan, une majorité des Français disaient... Ouais, pourquoi pas. Oui. Peut-être il a raison.
Ah oui.
Après toute votre lutte, la majorité disait non, ça passe pas.
Exactement.
J'ai bien compris ça.
On est arrivé à 2/3 des Français qui disaient non, nous n'en voulons pas de cette réforme. Et même si aujourd'hui, avec la pandémie, évidemment, il faut retravailler, reparler de ces questions-là aux Français. Mais dès qu'ils parlent de retraite en France, là, depuis ces dernières semaines, même au cours de l'été, les Français comprennent que c'est à nouveau une réforme qui est mauvaise pour eux, et donc ils disent clairement, nous ne voulons pas de cette réforme-là. Donc,
et tu penses qu'il va encore venir, qu'il va encore essayer de venir
Mais ça sera sûrement son programme à l'élection présidentielle, donc on sait, nous, qu'il faut anticiper et déjà se mobiliser.
Peut-être encore une question sur les jeunes, parce que ça c'est un débat compliqué en Belgique. Les pensions, c'est un débat Ouais, c'est quelque chose qui génère beaucoup de colère parce que l'attaque n'arrête pas, ça continue. Mais ce n'est pas facile d'impliquer les jeunes. Vous avez d'expérience à ce niveau-là. Peut-être encore un petit mot sur ça parce que c'est intéressant et c'est important, comme tu dis. C'est eux le futur.
Ouais. Bah sur les jeunes, c'est effectivement compliqué parce qu'évidemment, quand on n'est pas encore rentré dans la vie active, ce qui est souvent le cas pour les jeunes, parce qu'ils ont énormément de mal à trouver un emploi et surtout un emploi stable, hein, ils sont beaucoup dans la précarité. Évidemment, ils ne se projettent pas sur leur retraite, hein, et c'est normal, et y compris, je dirais, on a tous été comme ça. Donc, on essaye de discuter avec eux en disant qu'il faut qu'on crée du droit tout de suite pour eux. Donc, on travaille sur la question de l'emploi. Donc on pense qu'il faut, avec eux, travailler sur de bons emplois, la reconnaissance des qualifications et donc un salaire correct quand ils démarrent leur vie.
Avec des cotisations sociales.
Avec des cotisations sociales. Donc nous, on pense, quand ils font des études, les jeunes, eh bien ils apportent de la richesse quand ils rentrent dans la vie professionnelle. Ils sont plus qualifiés, donc ils apportent une richesse supplémentaire et donc il devrait y avoir des années qui compte pour la retraite. Et donc, on propose que 3 années d'études soient comptabilisées dans la retraite, ce qui permet de commencer à travailler plus tard, mais d'avoir les années suffisantes pour partir à la retraite avec un taux plein.
En Belgique, ce système existe pour les fonctionnaires.
Oui.
Donc, eux, ils peuvent comptabiliser 3 ans, mais le gouvernement veut le supprimer à tout prix.
Ouais.
Et donc, mais c'est intéressant, c'est vrai. Ça permet de concrétiser le débat.
Bien sûr.
Pour eux, déjà ici. On sait que l'Europe prépare de nouveau des nouvelles attaques sur nos pensions. Maintenant, si on doit les croire, les Français vont devoir travailler jusqu'à 71 ans. Les Belges, jusqu'à 70 ans. C'est juste incroyable, tout ça. Qu'est-ce que vous retirez ? Qu'est-ce que vous dites aux gens qui veulent continuer à se battre pour le droit à la pension, à la retraite ? C'est quoi les conseils que vous leur donnerez ?
On a effectivement tiré des bilans de cette mobilisation. D'abord, ça a renforcé la CGT et ça a renforcé les syndicats en général parce que les gens se sont aperçus aussi que pour gagner contre une telle réforme, il fallait être organisé, qu'il fallait être dans le collectif, qu'il fallait s'organiser aussi sur son lieu de travail, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Et pour être fort, il faut être bien organisé. Donc ils ont rejoint aussi les syndicats. Nous, à la CGT, on a fait beaucoup d'adhésions, justement, au moment des mobilisations. Environ 40 000 citoyens nous ont rejoints, ce qui n'est pas rien. Dans une lutte comme celle-là. On est le plus grand syndicat en nombre d'adhérents, mais ça a encore renforcé nos adhérents. Puis sont venus aussi de nouvelles professions. Donc c'est intéressant, et notamment parmi elles, des jeunes qui ont, par exemple, qui n'ont même pas de contrat de travail et qui font des livraisons de pizza, par exemple, à vélo et qui sont particulièrement exploités, qui sont licenciés d'un coup de SMS, et eux, ils ont commencé, ils n'étaient pas du tout organisés. Et eux, ils nous ont regardés dans la réforme de la retraite, ils ont commencé à se dire, mais nous, on n'a même pas de contrat de travail, donc on n'aura pas de retraite du tout, donc peut-être il faut qu'on s'organise. Maintenant, on crée beaucoup, beaucoup de syndicats en France avec ces jeunes-là. Et donc, c'est vraiment intéressant, parce que, voilà, c'est l'avenir, la jeunesse, c'est l'avenir du syndicalisme.
À fond.
Et vraiment, c'est très important. Et puis, on est sorti d'une période, justement, avec les Gilets jaunes, où on disait, mais c'est plus la peine d'être syndiqué, c'est plus la peine de s'organiser, on peut revendiquer comme ça, sans, tout seul, individuellement. Et donc le mouvement des retraites, il a bougé un petit peu les choses. Il a fait comprendre qu'effectivement, non, pour gagner des choses,
gros combats comme ça,
il fallait être derrière et avec un syndicat, et un syndicat combatif. On a aussi tiré des leçons sur l'unité syndicale, parce qu'on pense qu'effectivement, pour mobiliser comme ça, il faut être le plus uni possible. Alors en France, c'est pas simple, parce qu'il y a il y a beaucoup trop de syndicats, j'ai envie de dire, et puis il y a beaucoup de différences entre nos syndicats, mais on a aujourd'hui, en prévision de ce qui nous attend, hein, tu le disais, peut-être une nouvelle réforme l'année prochaine, on a créé une unité syndicale qui est assez forte, qui est majoritaire dans le pays, et donc qui est resté d'ailleurs uni, hein. Même pendant le Covid, on a continué à travailler ensemble pour préparer les éventuelles mobilisations possibles.
Ouais.
On est capable, par exemple, quand Emmanuel Macron dit « mais dès que le Covid est terminé, je passe une réforme et je recule l'âge de la retraite, on est capable de dire non ensemble et de menacer de mobiliser très très vite.
Bon, c'est très intéressant. Le temps passe très vite. On a déjà passé notre demi-heure. Peut-être une dernière question. Qu'est-ce que tu penses que ça va donner si, ouais, si ça recommence la lutte? Tu penses que les Français vont revenir ouais, vont se remobiliser? Ça va marcher? Tu as un bon espoir à ce niveau-là? Ou tu penses que ça va être dur? Comment tu estimes ça?
Alors, je dirais qu'en France, à chaque fois que le gouvernement a attaqué les retraites, ça a donné lieu aux plus grosses mobilisations. Le sujet retraite en France, c'est vraiment un sujet
dynamique,
qui mobilise de manière forte. Après, évidemment, comme c'est un enjeu pour le gouvernement extrêmement fort, le problème, c'est qu'il faut des mobilisations énormes et très longues pour arriver à arrêter les réformes et à gagner. Donc, j'ai de l'espoir parce que je sais qu'on est motivé sur ce sujet-là. Après, je suis consciente aussi que les salariés sont de plus en plus en difficulté, justement, pour mener des combats longs. Et donc, il y a des inquiétudes, évidemment, face à ça. Et moi, j'ai envie de dire, on fait notre job de syndicaliste, c'est-à-dire qu'on va tout faire pour informer, pour mobiliser, pour mettre les gens en grève et dans la rue. Mais après, il faut aussi des perspectives politiques. Parce que si les gens n'ont pas comme perspective la possibilité qu'en France, il y ait un programme politique qui propose justement du progrès social, une amélioration de leurs droits, que ce soit au niveau du travail comme à la retraite, c'est évidemment plus compliqué. Et donc on attend beaucoup du débat présidentiel, évidemment, puisqu'on rentre dans une période électorale et qu'en France, d'une manière générale, les Français aiment bien parler de politique. Donc nous, on va interpeller aussi les politiques pour leur dire, voilà, quel choix vous faites en matière de retraite. Et voilà, chacun, évidemment, avec son rôle. Hein. Nous, notre rôle, c'est d'améliorer les droits des salariés, de les mettre en grève, de les mettre à mobiliser. Mais on attend beaucoup des politiques et de leurs programmes pour changer ce pays.
OK, c'est très intéressant. Je suis très curieux pour voir la suite. Je te remercie beaucoup.
Merci à toi.
Studio Solidaire.